Alors que quelques heures seulement le séparaient de son propre supplice, il revenait en esprit sur les étapes du procès des Templiers, comme si c'eût été là, plus qu'en aucune autre de ses actions publiques ou privées, que se cachait l'ultime explication qu'il lui fallait découvrir avant de mourir. Et à remonter lentement les marches de sa mémoire, avec application ainsi qu'il en avait mis toujours à toute chose, il parvint à une sorte de seuil où soudain la lumière se fit et où il comprit tout. La malédiction ne venait pas de Dieu, elle venait de lui-même et ne prenait origine que dans ses propres actes. Et ceci était également vrai pour tous les hommes et pour tous les châtiments. Les Templiers ne montraient plus guère d'attachement à leurs règles. Ils s'étaient détournés du service de la chrétienté pour ne s'occuper plus que du commerce de l'argent. Les vices se glissaient dans leurs rangs et pourrissaient leur grandeur. Par cela, ils portaient en eux leur malédiction, et il y avait justice à supprimer l'ordre. Mais pour en finir avec les Templiers, j'ai fait nommer archevêque mon frère, homme ambitieux et lâche, afin qu'il les condamnât pour de faux crimes. Il n'est donc point surprenant que mon frère se soit assis au tribunal qui, pour de faux crimes, m'a condamné. Je ne dois pas lui reprocher sa trahison, j'en suis le fauteur. Parce que Nogaret avait torturé trop d'innocents pour en extraire les aveux qu'il croyait nécessaires au bien public, ses ennemis ont fini par l'empoisonner. Parce que Marguerite de Bourgogne avait été mariée par politique à un prince qu'elle n'aimait pas, elle a trahi le mariage. Parce qu'elle a trahi, elle a été découverte et emprisonnée. Parce que j'ai brûlé sa lettre qui aurait pu libérer le roi Louis, j'ai perdu Marguerite, et je me suis perdu en même temps. Parce que Louis l'a fait assassiner en me chargeant du crime, que lui arrivera-t-il? Qu'arrivera-t-il à Charles de Valois, qui ce matin va me faire pendre pour des fautes qu'il m'invente? Qu'arrivera-t-il à Clémence de Hongrie, si elle accepte, pour être reine de France, d'épouser un meurtrier? Même lorsque nous sommes punis pour de faux motifs, il y a toujours une cause véritable à notre punition. Tout acte injuste, même commis pour une juste cause, porte en soi sa malédiction. Et quand il eut découvert cela, Enguerrand de Marigny cessa de haïr quiconque et de tenir autrui pour responsable de son sort. C'était son acte de contrition qu'il avait prononcé, mais autrement efficace que par le moyen de prières apprises. Il se sentait en grande paix et comme d'accord avec Dieu pour accepter que le destin s'acheva de cette façon. Il demeura fort calme jusqu'à l'aube et n'eut pas l'impression de redescendre du seuil lumineux où sa méditation venait de le placer. Vers l'heure de prime, il entendit quelque tumulte par-delà les murailles. Quand il vit entrer le prévôt de Paris, le lieutenant criminel et le procureur, il se mit debout lentement et attendit qu'on lui ôtât ses fers. Il prit le manteau d'écarlate qu'il portait le jour de son arrestation et s'en couvrit les épaules. Il éprouvait une étrange sensation de force et se répétait constamment cette vérité qui lui était apparue. « Tout acte injuste, même commis pour une cause juste. Où me conduit-on » demanda-t-il. « À Montfaucon, messire. C'est fort bien ainsi. J'ai fait reconstruire ce gibet. Je finirai donc dans mes œuvres. » Il sortit du Châtelet dans une charrette à quatre chevaux, précédé, suivi, encadré de plusieurs compagnies d'archers et de sergents du guet. Quand je commandais au royaume, je ne prenais que 3 sergents pour m'escorter, et j'en ai 300 pour me mener mourir. Au hurlement de la foule, Marigny, debout dans la charrette, répondait « Bonnes gens, priez Dieu pour moi !» Le cortège fit halte au bout de la rue Saint-Denis, devant le couvent des Filles-Dieu. On invita Marigny à descendre, et on l'amena dans la cour au pied d'un crucifix de bois placé sous un dais. « C'est vrai, c'est ainsi que cela se passe, » dit-il, « mais je n'y avais jamais assisté. Et pourtant, combien d'hommes ai-je envoyé au gibet? J'ai connu 16 de fortune pour me payer du bien que j'ai pu faire. 16 de malheur et 1 matin de mort pour me punir du mal. Dieu m'est miséricordieux. » Sous le crucifix, l'aumônier du couvent récita devant Marigny agenouillé la prière des morts. Puis les religieuses apportèrent au condamné un verre de vin et 3 morceaux de pain qu'il mâcha lentement, appréciant une dernière fois le goût des nourritures de ce monde. Dans la rue, les Parisiens continuaient de hurler. « Le pain qu'ils mangeront tout à l'heure leur semblera moins bon que celui qu'on vient de me donner, » pensa Marigny en remontant en charrette.